ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يقول ربنا سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي من يشاء يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. القرآن أيها الأحبة كما وصفه ربنا سبحانه أحسن الحديث، له تأثير بليغ على الجوارح، على جوارح المؤمنين الصادقين الباطنة والظاهرة. ومن تلا هذا الكتاب المبارك وتدارسه أنزل الله عليه السكينة والطمأنينة والرحمة تغشاهم والملائكة تحفهم والرب سبحانه يذكرهم في من عنده. فأي فضل وأي شرف أعظم من هذا؟ أيها الأخيار، لا زلنا نتجول في بساتين سورة الضحى، وقد وصلنا الحديث في الخطبة الماضية إلى قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وبينا شيئا من إكرام أكرم الأكرمين على أكرم الخلق وأكرم الأمم، ألا وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأمته. وبينا أن هذا الإكرام في الدنيا عظيم، وهو في الآخرة أعظم. فاللهم لك الحمد على أن جعلتنا من خير أمة أخرجت للناس. أيها الأحبة، لقد ذكر الله عز وجل في هذه السورة الكريمة نعما من أعظم النعم الدنيوية والأخروية على خليله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، ثم امتن عليه بما يعلمه من أحواله الخاصة، فقال سبحانه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. يقابل الله تعالى في هذه الآيات الكريمات أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتيما، فإنه عليه الصلاة والسلام عاش من غير أم ولا أب. وقد قيل لجعفر بن محمد الصادق رحمه الله: لما أوتم النبي صلى الله عليه وسلم من أبويه؟ فقال: لئلا يكون لمخلوق عليه حق. وقال ابن كثير رحمه الله: وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه، وهذا أبلغ اليتم وأعلى مراتبه. ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر 6 سنين، ثم كان في كفالة نفسه عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر 8 سنين، فكف له عمه أبو طالب، ثم لم يزل يحوطه وينزله ويرفع من قدره، ثم لم يزل يحوطه وينزله ويرفع من قدره ويوقره ويكف عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه الله على رأس 40 سنة من عمره. هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثان، وكل ذلك بقدر الله وحسن تدبيره إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل، فأقدم عليه سفناء قريش وجهالهم، فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخزرج، كما أجرى الله سنته على الوجه الأتم الأكمل. فلما وصل إليهم آووه ونصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه رضي الله عنهم أجمعين، وكل هذا من حفظ الله له وكلاءته وعنايته به. انتهى كلامه رحمه الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، وكان عليه الصلاة والسلام يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط، يعني على شيء يسير من الدراهم، لأنه ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم، فجميع الأنبياء الذين أرسلوا أول أمرهم كانوا رعاة غنم، من أجل أن يتمرنوا على الرعاية وحسن الولاية. واختار الله لهم أن تكون رعيتهم غنما، لأن راعي الغنم يكون عليه السكينة والوقار، يكون عليه السكينة والوقار والرأفة والرحمة، لأنه يرعى مواشي ضعيفة بخلاف رعاة الإبل، فإنهم أكثر ما يكون فيهم الجفاء والغلظة، لأن الإبل كذلك غليظة قوية جبارة. ثم إن الله سبحانه وتعالى أكرمه فيسر له زوجة صالحة، وهي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، تزوجها وله 25 من العمر ولها 40 سنة، وكانت حكيمة عاقلة صالحة. قال الله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، آواك الله بعد اسمك، ويسر لك من يقوم بشؤونك حتى ترعرعت وتضر، ومن الله عليك بالرسالة العظمى. وقرأ الجمهور فآوى بألف بعد الهمزة رباعيا من آواه يؤويه، وقرأ أبو الأشهب ثلاثيا وهو بمعنى الرباعي، وهو إما بمعنى الرباعي وإما هو من أوى له إذا رحمه. ثم قال سبحانه: ووجدك ضالا فهدى، وجدك ضالا يعني غير عالم، كما قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، وقال سبحانه: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقال الله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ولكن صار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب العظيم عالما كامل الإيمان عليه الصلاة والسلام. وجدك ضالا أي غير عالم، ولكنه هداك. بماذا هداه؟ هداه الله بالقرآن، فأكرمه الله عز وجل بالنبوة، فكان أول ما بدأ بالوحي أن يرى الرؤيا في المنام، فإذا رأى الرؤيا في المنام جاءت مثل فلق الصبح في يومها بينة واضحة، لأن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، فدعا إلى الله وبشر وأنذر وتبعه الناس. فإن هذا اليتيم الذي كان يرعى الغنم أصبح إماما لأمته، وهي أعظم الأمم. ثم قال سبحانه: ووجدك عاملا يعني فقيرا، فأغنى أغناك وفتح الله عليك الفتوح، حتى كان يقسم ويعطي الناس. وقد أعطى ذات يوم رجلا غنما بين جبلين، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة عليه الصلاة والسلام. قال ابن كثير رحمه الله: فجمع الله لنبيه بين مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أسلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وقال الشاعر: النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هي الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. وقال زين العابدين رحمه الله: خذ القناعة والزمها تكن ملكا، لو لم يكن لك إلا راحة البدن. وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها من غير الفتن والكفن. ثم تأملوا أيها الأحباب قوله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ولم يقل الله سبحانه فآواك، بل قال فآوى. وقال سبحانه: ووجدك ضالا فهدى، ولم يقل فهداك. وقال سبحانه: ووجدك عائلا فأغنى، ولم يقل سبحانه فأغناك. فلماذا ذلك؟ هذا لمناسبتين: إحداهما لفظية والثانية معنوية. أما اللفظية فلأجل تناسب رؤوس الآيات كقوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. كل آخر الآيات ألفات. فقوله ألم يجدك يتيما فآوى، لو قال فآواك اختلف اللفظ، ولو قال ووجدك ضالا فهداك لاختلف اللفظ، ولو قال ووجدك عائلا فأغناك لاختلف اللفظ. أما المناسبة الثانية المعنوية وهي أعظم، قوله سبحانه ألم يجدك يتيما فآوى، هل آواه الله وحده أو آواه وآوى أمته؟ فالجواب الثاني بلا شك، فإن الله سبحانه قد آواه وآوى على يديه أمما لا يحصيهم إلا الله عز وجل. ووجدك ضالا فهدى، هل هداه وحده؟ لا، بل هدى به أمما عظيمة إلى يوم القيامة. ووجدك عائلا فأغنى، هل أغناه الله وحده؟ لا، أغنى الله وأغنى به، أغناه الله وأغنى به. فكم حصل للأمة الإسلامية من الفتوحات العظيمة. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، فأغناهم الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن ألم يجدك يتيما فآواك وآوى بك، ووجدك ضالا فهداك وهدى بك، ووجدك عائلا فأغناك وأغنى بك. هكذا حال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا لجميع من أراد أن يزيده الله من فضله العظيم. فقد قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فإن الشاكر على نعم الله بلسانه وأعضائه يتفضل الله سبحانه عليه بالازدياد من كرمه وعطائه. والشكر أيها الإخوة كما قال السعدي رحمه الله هو اعتراف القلب بنعم الله، والثناء على الله بها، وصرفها في مرضاة الله تعالى. وفي صحيح مسلم عن سهيل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وما ذاك إلا لمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له.
وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا من وأوسع من الصبر. فالمؤمن أيها الأخيار يتقلب بين مقام الشكر على النعمة وبين مقام الصبر على البلاء، فيعلم علم يقين أنه لا اختيار له مع اختيار مولاه وسيده ومالكه سبحانه وتعالى، فيتقلب في البلاء كما يتقلب في النعماء، وهو مع ذلك يعلم أنه ما من شدة إلا وسوف تدور، وما من حزن إلا ويعقبه صلح، وأن مع العسر يسرا، وأنه لن يغلب عسر يسرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. الله سبحانه وتعالى يجيب القرآن: الله a fait des tombes la meilleure des paroles, le Coran, un livre dans lequel se trouvent des informations par paire. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il parle du paradis, il parle aussi de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il parle des pieux, il parle aussi des pervers. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il parle des peuples qui ont démenti leurs prophètes, ils parlent aussi de leurs adeptes et ceux qui les ont suivis. Un livre, le meilleur des livres, un livre qui, lorsque ceux qui craignent le livre, ils en ont la chair de poule, leur peau frémit, et ensuite leur cœur s'apaise et se tranquillise lorsqu'ils évoquent Allah. Voici l'effet que le Coran doit avoir sur le vrai croyant. Lorsque le vrai croyant lit le Coran, son cœur palpite et sa peau frémit. Amma nahnu fahaddith wa la haraj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il n'y a pas un groupe qui se réunit dans une des maisons d'Allah, dans les mosquées, pour lire le Coran et pour l'étudier entre eux, sans qu'Allah subhanahu ne fasse descendre sur eux sa tranquillité, la tranquillité, la sakina, et les anges les recouvrent, et Allah subhanahu évoque chaque personne de cette assise auprès de ceux qui sont à côté de lui, et les anges rapprochés. Il n'y a pas meilleure parole, mes frères, que de parler de la meilleure parole, c'est-à-dire le Coran. Nous avons commencé, grâce à cela, quelques jours, à expliquer un peu sur la sourate Duha. Et nous sommes toujours à l'intérieur des jardins fleuris de cette sourate et de tous les domaines qu'elle aborde. Nous avons vu ensemble la semaine dernière le verset où Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète alayhi salatu wa salam et lui dit: et ce que ton Seigneur te donnera bientôt te rendra satisfait. Et nous avons parlé des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné en particulier au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'à sa communauté. Et on a vu que ce qu'Allah ta'ala donne aux musulmans dans ce bas monde est énorme, et que ce qu'Allah leur donnera dans l'au-delà sera encore plus grand.
Nous remercions donc Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir fait de nous des musulmans. Aujourd'hui, mes frères, nous sommes avec le verset suivant où Allah subhanahu wa ta'ala, après qu'il ait rassuré son prophète et messager, après qu'il ait encouragé à patienter sur sa mission, en lui promettant les plus belles, les plus beaux bienfaits, les plus beaux cadeaux, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait comprendre et lui fait savoir qu'Allah azza wa jal a une science infinie et qu'il savait très bien comment le prophète alayhi salatu wassalam était auparavant. C'est une situation particulière et personnelle. Allah ta'ala dit « Alam yajidaka yatiman fa'awa » Ne s'est-il pas trouvé orphelin? Alors, il a réfugié. وَجَدَكَ عَائِلًا وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى. Et il s'est trouvé égaré, perdu. Alors il a guidé. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Et il s'est trouvé pauvre. Et il t'a enrichi. Premièrement, Allah nous dit أَلَمْ يَجِدَكَ يَتِيمًا فَآوَى. Ne s'est-il pas trouvé orphelin? Le prophète, alayhi salatu wassalam, était orphelin. Orphelin de père et de mère. Et l'orphelin dans l'islam est celui qui a perdu son père avant la puberté. Adam ou Aliatim. Dans le fait d'être orphelin, il y a plusieurs degrés. Et le degré le plus grand du fait d'être orphelin, c'est de perdre son père avant de naître. Et c'est ce qui est arrivé au prophète, alayhi salatu wassalam. Comme dit Ibn Kathir, rahimahullah, le prophète alayhi salatu wassalam a perdu son père alors que sa mère Amina était encore enceinte de lui. On a demandé à Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq rahimahullah, un des descendants de Ali radiallahu anhu, pourquoi le prophète était orphelin de ses deux parents. Alors il a répondu pour qu'il n'ait aucun devoir sur quiconque à part Allah subhanahu wa ta'ala. Le Qadir Rahmanullah nous dit, le prophète alayhi salatu wassalam naquit orphelin de son père. Ensuite, il perdit sa mère, Amina bint Wahb, alors qu'il n'avait que 6 ans. Alors son grand-père, Abdel Muttalib, en prit la charge. Et lui aussi mourra 2 ans après, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait que 8 ans. Ensuite, c'est son oncle, Abu Talib, qui s'en occupa. S'occupa du prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, lorsqu'il était sous la charge de Abu Talib, ne manquait de rien. Et le prophète, lors de son enfance, a été berger. Il s'occupait de garder les moutons des gens de la Mecque. Pour quelques dinars, pour quelques dirhams. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que tous les prophètes aient été bergers avant d'atteindre le rang de la prophétie. Parce qu'en s'occupant d'un troupeau de moutons, on apprend à gérer un groupe. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que le prophète alayhi salatu wassalam soit le berger de moutons, car ce sont des bêtes faibles et douces. Et en général, les bergers, ceux qui s'occupent des moutons, sont eux aussi doux et tranquilles et calmes, contrairement à ceux qui s'occupent des chameaux, qui eux ont en général une rudesse et une dureté au niveau du caractère et du comportement, comme le comportement de leur bête. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, continue son évolution dans sa jeunesse, jusqu'à ce qu'à 25 ans, il épousa Khadija bint Khuwaylid, radiallahu anha wa arda'ha. Alors qu'elle en avait 40 ans, selon une divergence chez les historiens. Ensuite, Abu Talib, son oncle, qui l'a accueilli et qui l'a éduqué et qui l'a recueilli, mourut. Et ensuite, Hatice radıyallahu anh'a ve ne yaptı? Mourut. Ensuite, les ignorants et les mauvais de Quraysh s'abattirent sur le prophète et sur les musulmans, radiallahu anhum. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a ouvert une porte vers l'émigration vers Médine, où il rencontra un peuple qui l'accueilla, qui l'accueillit, et qui le recueillit, et qui le défendait, et qui se satisfait pour lui. D'où la fin du verset, Sa'awa. Allah s'est trouvé orphelin et il l'a recueilli. Il t'a recueilli après la mort de ton père, après la mort de ta mère, après la mort de ton grand-père, après la mort de ton oncle, après la mort de ta femme, et jusqu'à la fin de tes jours. Et Allah subhanahu wa ta'ala a recueilli le prophète alayhi salatu wa salam et aussi a recueilli sa communauté. Car lorsque le prophète émigra à Médine, les musulmans de la Mecque émigrèrent avec lui. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى » Il se trouva perdu, alors il guida. On dit perdu en français, la traduction. Mais le sens en arabe, « ضَالًا » ça a plusieurs sens. Parmi ces sens-là, l'ignorance. Parmi ces sens-là, l'oubli. Parmi ces sens-là, le fait de se perdre. Parmi ces sens-là, l'égarement. Ici, c'est l'absence de science. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, avant la révélation, ne connaissait rien de ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala et de la mission prophétique. D'ailleurs, Allah Ta'ala, dans de nombreux versets, il fait référence. Allah Ta'ala dit, « Ma kunta tadri ma al-kitab wa la al-iman » Tu ne savais pas ce qu'était le livre, ni la foi. Et Allah lui dit, « Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la taqutuhu bi yaminik » Tu ne lisais aucun livre auparavant, et tu n'en écrivais aucun. Et d'autres versets qui s'y rapportent. Alors Allah Subhanahu wa Ta'ala a choisi de guider Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les enfers, la meilleure de ses créatures et le dernier de ses prophètes et messagers, et d'en faire agir pour la meilleure des communautés. Après qu'il ait été le berger d'un troupeau de moutons, il devint le guide et le chef de la meilleure et de la plus grande des communautés qui a existé sur terre. Il t'a guidé. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى » Il t'a trouvé pauvre, alors il a enrichi. Lorsque les parents du prophète moururent, ils ne laissèrent rien au prophète alayhi salatu wa salam. Et Abdullah ibn Muttalib et Abu Talib, lorsqu'il s'en occupait, ne lui donnait rien directement comme argent ou comme fortune, d'où le fait qu'il travaillait comme berger. Et lorsque Abu Talib mourut, le prophète n'avait pas le droit à son héritage, vu qu'il n'était pas musulman. Et vu qu'il mourut sur la religion de leur père, qui était l'association. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, après qu'il est accordé la victoire et le secours au prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a ouvert les portes vers les conquêtes et vers les richesses dont personne ne peut imaginer la quantité. Mais pourquoi, comme on l'a vu dans une journée précédente, malgré cette richesse qui lui était exposée quotidiennement, le prophète, alayhi salatu wassalam, la délaissait et la rejetait et avait préféré que Allah ta'ala lui avait gardés auprès de lui dans le paradis. Les musulmans connurent la richesse seulement après qu'ils rentrèrent dans l'islam. Alors qu'avant, ils se battaient pour des cadavres de brebis jetés dans le désert. Et parmi eux, il y en avait qui mouraient de faim quotidiennement, à un point où même ils tuaient leurs enfants pour ne pas mourir de faim et pour ne pas être touchés par la pauvreté.
prophète alayhi salatu wa salam, lorsqu'on lui ramenait les boudins après les batailles, il distribuait sans réfléchir au pas. À la fois où une fois il a donné à un homme un troupeau de moutons entre deux montagnes. Il ne gardait pas de part pour lui, mais il distribuait et il partageait aux autres, sans craindre par cela la pauvreté ou la famine. D'ailleurs, il a été rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira, radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la richesse, ce n'est pas le fait de tout posséder, de tout avoir, mais la richesse, c'est la richesse de l'esprit, c'est la richesse de l'âme. Et dans le hadith, le prophète Muslim, le prophète dit, alayhi sallallahu sallam, certes, a gagné celui qui s'est soumis et à qui on a donné la modestie et le fait de se contenter de ce qu'il possède. Car il n'y a pas une chose meilleure qu'on ait donnée à l'être humain, si ce n'est la patience et le fait de se contenter de ce qu'Allah nous a donné. Un poète, il a dit, l'âme éprouve de la peine à être pauvre, alors que la pauvreté est meilleure pour elle qu'une richesse qui la rendra mauvaise. Et la vraie richesse, c'est la richesse de l'âme. Et si elle s'y refuse, alors tout ce qu'il y a sur terre ne lui suffira jamais. L'être humain peut avoir tout ce qu'il voudra, il n'est jamais rassasié. L'être humain peut avoir des palais et des voitures et des montures et des jardins, et toujours il demande d'avoir plus. Alors que si la foi habite son cœur, et si il se contente et est satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, alors une date le rendra heureux. Et on remarque, lorsqu'on lit les versets de Sourate al-Duha, qui finissent tous par des alif. Al-Duha, le alif de la fin, le A. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Jusqu'au verset qu'on en voit. Et ça pour deux raisons. La première, elle est textuelle. La seconde, elle est dans le sens. La première, c'est que si Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il s'adresse au prophète, alayhi salatu wa sallam, il n'a pas dit, فَهَدَاكَ, il t'a guidé. Mais il a dit, il a guidé. Il n'a pas dit, il t'a enrichi. Il a dit, il a enrichi. Sans mettre le pronom avec. Pourquoi? Pour respecter la fin des versets. Pour que chaque verset se finisse de la même façon que les versets qui ont précédé. C'est une explication, c'est au niveau du sens. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Alam yajidka yatiman fa'awa. Est-ce qu'Allah ta'ala, il a réfugié et recueilli seulement le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ou est-ce qu'il a aussi recueilli toute sa communauté? La seconde, aussi, est-ce qu'Allah il a guidé seulement le prophète, ou il a guidé le prophète et sa communauté? La seconde, aussi, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a enrichi seulement le prophète, ou bien il a enrichi le prophète et sa communauté? Les deux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mis le dhamir, le pronom personnel, à la fin du verset, pour deux raisons. Pour respecter la fin de chaque verset, afin qu'elle soit coïncidente, et pour mettre en évidence le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, en même temps qu'il a recueilli, guidé et enrichi son prophète, il a aussi recueilli, guidé et enrichi sa communauté. Et comme il dit le verset rahimahullah, dans les trois versets, Allah ta'ala, il a lié et il a joint entre deux statures, entre deux productions chez le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. La reconnaissance dans la facilité et la patience dans l'adversité. C'est-à-dire, comme on l'a dit, il était entre là, il n'avait rien. Et pourtant, le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a toujours été patient. Il ne s'est jamais mis en colère dans sa situation. Et aussi, après qu'Allah l'ait guidé, Allah l'a enrichi. Et malgré sa richesse, cette richesse spirituelle, comme on l'a dit, le prophète alayhi salam a toujours été reconnaissant. Et c'est ainsi que se doit être le croyant, patient lors de l'adversité et reconnaissant lors de la facilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il y a une source d'étonnement dans l'affaire du croyant. Tout ce qui lui arrive est pour lui un bien. Et cela n'arrive qu'au croyant. S'il lui arrive une facilité, un bonheur, il remercie. Et ce sera pour lui un bien. Et s'il lui arrive un malheur, il patiente. Et ce sera pour lui un bien. Pourquoi? Parce que s'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala correctement, après qu'Allah ta'ala lui donne un bonheur, une bonne chose, Allah ta'ala lui rajoutera. Allah lui dit, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Et lorsque ton Seigneur s'est permis, yani il a dit, si vous remerciez, je vous rajouterai. Quant à celui qui patiente dans l'adversité, Allah Ta'ala il dit, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Certes, tu auras donné pleinement la récompense aux patients sans vous compte. La patience, c'est la reconnaissance. Et la reconnaissance, mes frères, n'est pas seulement le fait de dire Alhamdulillah avec talent, mais c'est le fait d'exprimer notre gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala avec nos membres extérieurs et intérieurs. Donc, nos membres extérieurs, c'est-à-dire nos bras et nos jambes, nos yeux et notre langue et nos oreilles. Le fait d'asservir nos membres dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, remercie Allah subhanahu wa ta'ala réellement. Et avec nos cœurs, c'est invoquer Allah subhanahu wa ta'ala de le remercier et d'avoir dans notre cœur la gratitude et la foi et la reconnaissance. Contrairement aux gens d'aujourd'hui, lorsqu'on leur donne une chose qui leur plaise, ils sont contents. Et lorsqu'ils arrivent en malheur, ils se frappent la tête, se déchirent les vêtements, crient et insultent. Il y a un fini. Donc, le vrai croyant, lui, il n'y a pas de différence qu'il soit dans le bonheur ou qu'il soit dans le malheur, son état ne change pas, parce qu'il sait, quand il arrive au bonheur, il connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Et que s'il remercie Allah ta'ala correctement, Allah lui rendra mieux, et donnera mieux que ce qu'il lui a donné en premier. Et s'il lui arrive un malheur, il patientera et il saura que ce malheur tôt ou tard partira. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. » Il y a avec deux difficultés, une seule. Il y a avec deux facilités. Il y a pour une difficulté, deux facilités. Il y a pour une difficulté, deux facilités. « Inna ma'al usri yusra. » Il y a avec la difficulté, la facilité. Le verset est répété deux fois. Et dans les deux fois, on a Al-Usr avec le Alif et le Lev. Ce qui nous veut dire que le Usr du premier verset, c'est le même que le deuxième verset. Mais Yusran, il est naturel, il est indéfini. Ça veut dire que le Usr du premier verset, c'est pas le même que celui du deuxième verset. Ça veut dire que pour une difficulté, Allah nous donne deux facilités. Alors pourquoi s'en faire? Alors pourquoi avoir des soucis? Et pourquoi pas une difficulté blanche à se gratter la tête? À se dire comment je vais faire pour sortir de cet endroit-là. Si tu passes des nuits blanches, laisse-toi un peu le monde. Khilaf Azaïn, il a ses mains vers Allah subhanahu wa ta'ala et demande-lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala te donnera mieux que ce que tu lui demandes. Allah subhanahu wa ta'ala, bi asma'i al-husna wa sifatihi al-ula. أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اجعلنا من الشاكرين الصابرين اللهم اجعلنا من الشاكرين الصابرين اللهم اجعلنا نشكرك بأعضائنا كلها يا حي يا قيوم اللهم اغفرنا عند البلاء يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين اللهم وفقهم للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم وفق لهم اللهم
قل اللهم ارزق لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم اشف مرضانا يا شافي المرضى، اللهم اشف مرضانا يا شافي المرضى، اللهم ان من عبادك مرضى، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم ابدل سقمهم صحة ومرضهم عافية، اللهم طهرهم من الآثام والذنوب يا علام الغيوب. اخواني الكرام، هناك اخ كبير في العمر هو في فراش الموت وهو يحتضر وهو في المستشفى في البعث، ونحن نعرف ابناءه منذ زمان وكلنا نعرفه كذلك، اذ كان يصلي في مسجد من مساجدنا في صغره، فهو الان يحتضر، ولعل ملك الموت ياتيه في يومنا هذا، ولعل ملك الموت ياتيه قابلا لروحه في يومنا هذا بل في ساعتنا هذه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهون عليه سكرات الموت، اللهم هون عليه سكرات الموت، اللهم يسر خروج روحه من جسده، اللهم اجعل ملائكة الرحمة تأخذ روحه يا رب العالمين، اللهم اجعل روحه في أعلى عليين يا رب العالمين، اللهم ارحمنا يا حي يا قيوم، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحم جميع أموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.